Cet épisode fut enregistré au sein des ateliers des Capucins où les contraintes sanitaires nous ont obligés à garder nos masques. La qualité du son en étant affectée, nous nous excusons pour le désagrément.
J'avais un désir, c'était de faire en sorte que grâce aux Capucins, on renverse la spirale infernale qui était en place à Recouvrance. Et je constate que c'est le cas puisque aujourd'hui, on voit y a les immeubles qui se construisent au-dessus, mais en plus, autour, à Recouvrance, on voit bien qu'il y a toute une réhabilitation qui est en train de se faire et que le quartier devient de plus en plus attractif. Et ça, c'est grâce à ce choix qui avait été fait ici de faire venir un équipement d'agglomération, on appelle ça. Donc.
La grande maison. Histoire d'Arsouille, à retrouver chaque semaine sur Radio U.
On les retrouve en raccourci.
Bonjour, Jacques Lien. Vous m'avez donné rendez-vous aujourd'hui à la fabrique, aux ateliers des Capucins. Mais
mardi dernier, je rencontrais aux ateliers des Capucins, où il me donnait rendez-vous, Jacques Quillien, ancien ouvrier à la construction neuve, sorti des Arpètes, le centre de formation de l'Arsenal. Il finissait sa carrière sous les voûtes du plateau des Capucins, au service qualité, en 1998. Il me parlait de ce qu'étaient ces ateliers avant qu'ils ne soient désertés par les ouvriers.
Quel âge aviez-vous et combien de temps y êtes-vous resté ?
Je suis rentré à l'Arsenal en 1959, j'avais 14 ans, pas tout à fait 14 ans, et j'y suis resté jusqu'en 1998, j'avais presque 53 ans quand j'ai quitté. Alors, j'ai eu plusieurs postes, donc j'ai fait mon apprentissage à l'école d'apprentissage de l'Arsenal, donc on appelait ça les Arpètes. Ici, un peu plus haut, là, au plateau, c'était une formation en 3 ans. On formait la moitié du temps donc sur les disciplines scolaires et l'autre moitié sur les disciplines professionnelles. Au bout de 6 mois, je crois, ou 3 mois, je ne sais plus, on devait choisir entre quatre professions, quatre directions, donc soit les formeurs de métaux en feuille, soit électriciens, soit ajusteurs. Et au bout de ce temps-là, donc on avait notre spécialité. À l'issue, j'ai été nommé au bâtiments en fer, tout au fond de la Pinfel, au fond de l'Arsenal. J'avais comme métier de la fabrication de petits carrelingages en tôle, essentiellement. Ensuite, j'ai fait un séjour au tracé des matériaux où on traçait les grandes tôles qui devaient aller former la coque des bateaux. J'ai été affecté au chantier N, à la construction neuve, là-bas à la Ninon. Puis, au retour du service militaire, j'ai été affecté à nouveau au chantier N. Donc, j'ai continué. Là. Donc, un des premiers bateaux sur lequel j'ai travaillé, c'était le porte-avions Clémenceau, Jeanne d'Arc, des pétroliers ravitailleurs, des sous-marins. Enfin bon, j'ai travaillé pendant 10 ans au chantier N. J'étais délégué syndical, j'étais délégué du chantier, la CFDT. J'ai été élu par mes camarades donc pour être permanent syndical. Donc là, j'ai fait 10 ans à la permanence syndicale où je me suis occupé de la fabrication du journal. Le journal du syndicat de l'Arsenal pendant 10 ans, et ensuite j'étais affecté ici au plateau des Capucins au service qualité. Moi j'étais dans un bureau là aujourd'hui occupé par le musée 70.8 et à l'étage. Qui avait l'avantage d'avoir une grande fenêtre en arc de cercle, ça aurait pu être joli, sauf que les châssis étaient en ferraille rouillée qui se tordaient avec le temps et les vitres n'arrivaient pas à tenir, ce qui fait que les vitres étaient cassées et pour empêcher l'air de passer, on mettait du scotch, quoi, pour empêcher le vent de rentrer. En plus, on était au bout du système de chauffage, qu'il était souvent en panne. Ça nous arrivait souvent de travailler avec des bouillons chauds au bureau, parce qu'on avait tellement froid. Quand j'arrivais à la maison, j'étais toujours frigorifié. Enfin bon. Travailler essentiellement, hein, je n'ai pas fait que ça, mais travailler sur les non-qualités. En fait, comme dans toute entreprise, enfin, tout le monde, quand on fait des choses, on fait toujours des erreurs ou des manques de précision. Donc le principe de la qualité, c'est tout le monde a le droit de se tromper, mais tout le monde a le devoir d'essayer d'en corriger les causes. Donc le but était d'établir des procédures pour traiter ces non-qualités. Donc, pas pour juger les gens qui avaient fait des mauvais boulots, mais pour faire en sorte que repérer le défaut, l'erreur, la non-qualité, l'analyser, savoir pourquoi c'est arrivé, et ensuite agir pour proposer des actions pour éviter que ça se renouvelle, pour réparer d'abord, et puis ensuite pour éviter que ça se renouvelle. Donc c'est un travail à lequel je me suis donné pendant 12 ans, ouais, un peu plus de 12 ans, ouais, me suis occupé de ça. Et ensuite, j'ai bénéficié d'un dégagement de cadre, puisque les activités de l'Arsenal baissant, la direction nous a proposé de prendre une pré-retraite. Donc j'ai pris une pré-retraite en 98, j'avais un peu plus de 52 ans et j'étais élu au conseil municipal de Brest, et ce qui fait que ça n'a pas été trop dur quitter l'Arsenal, puisque j'avais de quoi m'occuper à l'extérieur.
Aujourd'hui, les ateliers des Capucins ont été réinvestis par la ville de Brest afin d'en faire un espace public, lieu de rencontre et de vie quotidienne. Les machines toujours présentes nous rappellent pourtant qu'avant d'être investies par les enfants et les parents, les ateliers ont abrité des ouvriers.
Ici, en fait, on se trouve dans la partie qui a été conçue essentiellement au moment où la marine est passée de la marine en bois et à voile à la marine en fer, au bateau en fer et à vapeur. Donc c'est à ce moment-là que ce qui était avant le plateau des Capucins, donc c'est-à-dire un monastère, donc est devenu d'abord, je crois, un magasin industriel, et puis plus tard, donc, est devenu ces ateliers, donc qu'on a connus ensuite. Mais ça s'est pas fait en une seule fois, puisque c'est au fur et à mesure de l'évolution des techniques et des technologies que les ateliers ont pris du volume, et donc les métiers ont aussi évolué, puisqu'on est passé du rivetage à la soudure, puis toutes les techniques, technologies modernes après de soudure. Quand on entrait ici il y a 30 ans, c'était une usine, bah, comme on peut voir dans les films, hein, l'usine. Là, dans l'atelier là, tel qu'on est là, il y avait des centaines de tours. Des tours, des fraiseuses, des machines-outils, et avec une ambiance qui n'a rien à voir avec celle qu'on voit aujourd'hui. Quoique, malgré tout, je crois qu'on a réussi à préserver quand même la mémoire. Hein. On a la structure est la même, les pylônes en acier, les ponts roulants, enfin bon, la structure est la même, mais l'ambiance, bien sûr, a complètement changé, puisque à l'époque, c'était loin d'être aussi nickel, aussi propre que l'on peut voir aujourd'hui. Le sol était très très dégradé. C'était un patchwork de ciment, terre battue, briques. Enfin, les murs étaient sales, avec les fumées, les poussières, Le chauffage était. C'était des. Comment on a, du chauffage rayonnant, là, des. Je sais plus comment on appelle ça, enfin, des tubes électriques. Les tubes chauffaient électriquement et puis qui chauffaient en haut, enfin qui chauffaient comme on pouvait. Quand ici, il y avait des grandes portes, tout autour de l'arsenal et des ateliers et qui étaient ouvertes régulièrement pour laisser passer des camions. Ce qui fait que c'était tout le temps un vrai courant d'air. Les copains qui travaillaient ici étaient tout le temps. Dans le courant d'air, il faisait froid, il faisait froid en hiver, il faisait chaud en été. C'était un bruit de fond constant avec les machines qui tournaient. Voilà l'ambiance de l'époque qui n'a pas grand chose à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui, bien sûr. Aujourd'hui c'est nickel, quand on voit le sol, ça fait presque un sol de balle. Enfin, même ciré, ça reluit, enfin, ça n'a rien à voir. Tout était occupé, il y avait des machines partout, il y avait des milliers de personnes qui travaillaient sur l'ensemble de la structure. Alors ici, on est dans la partie mécanique, donc c'était des machines-outils. Et là où est aujourd'hui la médiathèque, c'était la chaudronnerie. Et là, c'était un bruit. Alors c'est pas les mêmes genres de bruits, parce que c'est des bruits de frappe, les chaudronniers qui frappaient sur les tuyaux pour les former, ils utilisaient beaucoup les chalumeaux, donc ça, quand on était auprès des chalumeaux et des tubes, des tuyaux chauffés, bien sûr il faisait très chaud, mais après il y avait les mêmes courants d'air qu'ici, enfin. C'était là à côté, c'était le vacarme, quoi. Ici, c'est un bruit de fond. Et voilà, essentiellement, c'est cette ambiance-là de besogneuse ici, et puis qui n'a rien à voir, bien sûr, avec aujourd'hui, on entend les enfants qui jouent à la trottinette. Ah, ici, l'odeur particulière, c'était l'odeur des machines-outils, puisque. L'huile de coupe qu'utilisaient les tourneurs avait une certaine odeur qui se répandait quand même à l'ensemble de la nef. À côté, c'était surtout les odeurs des tuyaux, donc quand on chauffe des tuyaux en cuivre ou du zinc, des choses comme ça, donc il y a des odeurs assez mauvaise. L'électricien n'a pas beaucoup d'odeur, mais je bricole encore un peu chez moi. Je fais un peu de soudure à la maison et j'en parlais pas plus tard que ce matin à ma femme. J'aime bien sentir cette odeur-là. C'est une odeur de fumée, c'est pas très très. Ma femme déteste, mais moi, ça me rappelle un peu mon métier et j'ai un peu la nostalgie.
Jusqu'à 600 ouvriers travaillaient quotidiennement sous la charpente des Capucins, répartis essentiellement entre électriciens, mécaniciens et chaudronniers.
Avec une ambiance, alors quand on parle d'ambiance, les gars étaient là et travaillaient sur leur tour. Et au-dessus, ici, il y avait des bureaux qui étaient tout au long de la façade là. Il y avait des bureaux et une passerelle qui reliait tous les bureaux. Et bien sûr, les cadres étaient là-haut. Donc les gars, quand ils bossaient ici, ils avaient toujours été sous le regard des cadres et des chefs d'atelier, donc qui étaient là plus haut, quoi, surveillés. Mmh. Donc ici, la partie où l'on se trouve, donc c'était toutes les machines-outils. Donc essentiellement des tours, des fraiseuses, des étolimeurs, c'est de la mécanique, quoi. Donc ici c'était l'atelier mécanique. On a gardé les grandes machines spectaculaires, hein, les étolimeurs, les tours, le plus grand tour, un des plus grands tours d'Europe, hein, qui a permis de tourner l'arbre d'hélice du Charles de Gaulle, entre autres. Voilà, ça c'était la nef des seigneurs, ils appelaient ça, puisque c'était les meilleurs ouvriers, donc ils s'occupaient de ces grosses machines. Ici, là où on se trouve, c'était des petits tours, donc où les gars fabriquaient des petites pièces mécaniques en série, souvent. Enfin, c'était des professionnels, donc qui avaient fait pour la plupart avaient fait donc l'école d'apprentissage. Ils avaient appris le métier là. Et ils venaient après ici autour ou à la fraiseuse travailler. Et donc comme je disais tout à l'heure, à côté, donc là où était où se trouve maintenant la médiathèque, à cet endroit-là, donc ils formaient les tuyaux donc pour aller ensuite à bord des bateaux. Ils traçaient sur des plans au bureau à dessin. Et ensuite, donc ça se traduit par des gabarits en fer, donc qui servent après au chaudronnier pour former son tuyau. Les tuyaux sont formés, il y a des fours à l'intérieur, hein, dont le four qu'on a conservé, qui se trouve à l'intérieur de la médiathèque. Donc les tuyaux sont chauffés pour être recuits, pour qu'ils soient plus malléables, et formés, soudés, en des longueurs transportable, on va dire, donc qu'ils puissent aller dans le camion, donc le camion dont je parlais tout à l'heure, qui traversait les nefs. Donc les camions, les tuyaux étaient mis dedans et ils allaient après à la Ninon pour être posés à bord des bateaux. Après le reste, il y avait plein de. Il y a eu pendant un moment ici au bout là une fonderie. La fonderie servait à faire les pièces moulées, donc c'est-à-dire les pièces trop compliquées pour être développables, donc étaient moulées dans des moules, réaliser les pièces en fonderie. Et plus loin, alors de l'autre côté de la rue, maintenant c'est un parking, mais à l'époque, donc il y avait l'atelier électricité. Et c'était là qu'étaient réalisés les tableaux électriques. Enfin, toute la partie électrique du bateau était conçue là, à l'atelier électrique. Et j'ai oublié de dire, il y avait aussi, là où sera plus bientôt le fourneau, il y avait là donc l'atelier qu'on appelait machinaire, et qui lui travaillait sur les machines des sous-marins atomiques. Donc il faisait Ils travaillaient sur essentiellement les machines, tout ce qui comporte des parties rotatives, quoi, enfin avec des parties électriques. Donc c'est là qu'ils étaient d'abord faits, réparés et essayés ensuite dans un autre atelier un peu plus loin. Donc ils étaient à la station d'essai.
Cela fait 23 ans que Jacques Killien a quitté l'Arsenal. Pourtant, il y revenait sur ce plateau des Capucins. Pour ce qui restera le projet le plus marquant de sa carrière.
J'ai une chance extraordinaire. Enfin, ça ne doit pas arriver souvent dans la vie que des gens ont cette opportunité-là. Moi, je travaillais ici, pour l'Arsenal. J'étais élu en même temps. Et quand j'ai quitté, c'est à ce moment-là, quand j'ai quitté l'atelier des Capucins, c'est à ce moment-là qu'on a commencé la réflexion sur l'avenir du plateau. Et donc. En tant qu'élu, j'ai suivi le projet depuis le début. Je faisais partie du comité de pilotage et je me souviens qu'on s'était posé la question chacun qu'est-ce que on aimerait bien que ça devienne le plateau des Capucins. Et donc c'est dommage que j'ai pas gardé d'ailleurs ce que j'avais écrit à l'époque. Mais j'avais dit, pour moi, la première chose à faire, c'est de respecter les murs, respecter le lieu, quoi, le patrimoine, quoi, hein, des lieux. Et donc, garder les murs, c'est quand même, il n'y a pas beaucoup d'espace comme ça à Brest, et bon. On voyait bien qu'il y avait un potentiel. Il n'avait pas du tout l'allure qu'il a maintenant parce qu'il était dégradé de partout. Il avait été rafistolé après la guerre, après les bombardements, mais il était en très mauvais état, le bâtiment. Donc j'ai demandé à ce que qu'on conserve les murs et qu'on les mette en valeur. Deuxième chose, c'était à l'intérieur qu'on conserve ce qu'on peut de la mémoire des lieux, et entre autres les machines remarquables. Donc on se débrouille, on fait ce qu'on veut, mais surtout on garde le patrimoine. C'est pas moi qui prenais les décisions, hein, mais je participais. Mais je voulais pas que dans ces lieux, on oublie qu'il y a des gens qui avaient travaillé là. Je voulais pas que ce soit un lieu aseptisé. Donc on puisse faire évoluer le lieu, mais tout en conservant la mémoire. Et l'autre chose, je me rappelle, il y avait eu un premier projet auquel j'avais de suite dit mon opposition. Je voulais qu'on conserve cette majesté des lieux. Quand on arrive ici, c'est de... Ouais, c'est pour... Donc c'est pour que le... C'est qu'on voit cette grandeur. Je sais pas comment expliquer ça, mais cette majesté, on est surpris quand on rentre dans ce bâtiment, c'est de voir cet espace immense, clair et qui est en même temps un espace industriel. On voit toujours les poteaux. Voilà, mes trois principales
Vous attendu, votre responsable.
Voilà ce que j'attendais. Ouais.
La Grande Maison, une émission de Martin, Cause et Léouette, à retrouver chaque semaine sur Radio U.
On les retrouve en raccourci dans nos petites amours d'un jour, toutes les joies, tous les soucis, des amours qui durent toujours. C'est là le sort de la marine et de toutes nos petites chéries. On accoste vite un bec pour nos baisers le corps avec, et les joies et les bouderies, les fâcheries, les bons retours. Y a tout ça en raccourci.